Donc, sans transition, la suite. Donc, on va se déplacer un petit peu dans le temps pour aborder la situation au XIVe siècle. Donc, avec Juan Molina de l'Université de Gerona, qui va nous parler des prophéties et des emblèmes eschatologiques des rois d'Aragon, 1350-1458. Donc, un exposé riche en images, là encore.
Madame et Monsieur, bonjour. Je veux remercier aussi les organisateurs pour son amable invitation à participer à cet intéressant colloque. Au cours du bas Moyen Âge, la couronne d'Aragon fut un territoire où l'activité visionnaire se développa avec une forte intensité et donna lieu à une série riche et complète de prédictions de la fin du monde. C'est dans ce contexte qu'apparut une prophétie eschatologique destinée à une longue vie. Le vae mundo incent humanis, que Arnaud de Villeneuve, théologien et médecin de la cour d'Aragon, rédigea entre 1297 et 1301. Ce texte, contenant des résonances joachimites évidentes, annonce l'arrivée prochaine du Vespertilio, le chauve-souris, un souverain universel désigné par les pouvoirs divins et ayant pour mission la destruction des mahométans de la péninsule ibérique, cachée sous la métaphore des moustiques, afin de soumettre après cela l'Afrique et de vaincre la bête. D'un point de vue purement emblématique, il est important de souligner que l'association entre les chauves-souris et les dragons de l'Apocalypse avait déjà utilisé comme symbole impérial par les Staufen, en particulier pour Frédéric II. Selon une ancienne tradition prophétique d'origine germanique, le souverain portant le Vespertilio était considéré comme le candidat idéal pour gouverner l'empire universel après la défaite définitive des ennemis de la foi chrétienne. Tout comme les germaniques, Arnaud de Villeneuve en rappelait l'origine apocalyptique et messianique et le transforma clairement en image d'un futur roi universel. Par ailleurs, tel que le souligna Alain Milon, une autre possibilité est que la source d'inspiration a été une série de prophéties byzantines et musulmanes de la fin du IIe et du début du IIIe siècle qui annoncient la conquête immédiate de Constantinople, de l'Égypte et de Terre Sainte par un roi blond, une étoile de l'Ouest, Vesper en latin. Malgré que nous n'ayons aucune référence explicite, il est bien connu que d'autres textes que Arnaud de Villeneuve associa à Frédéric III de Sicile, descendant des Staufen et de la maison d'Aragon, au Renovatio Mundi, le roi chargé de purifier l'Église et le monde chrétien en convertissant les musulmans. Par conséquent, il est très probable qu'il a pensé à lui lorsqu'il imagina la métaphore eschatologique et impériale du Vespertilio. Au cours des siècles suivants, beaucoup de visionnaires reprirent la prophétie d'Arnaud de Villeneuve. Tandis que quelques prophètes philo-français, comme par exemple Jean de Roquetaillade, utiliseront le vae mundo pour signaler que l'Antéchrist sera issu de la lignée de la couronne d'Aragon, d'autres visionnaires, proches à la monarchie hispanique, établiront un lien entre le Vespertilio, le souverain universel, et le roi d'Aragon en place. Ils lui attribueront ainsi la mission sacrée de vaincre les musulmans, unifier les royaumes hispaniques, conquérir l'Afrique et parfois même de peindre Jérusalem. Parmi tous les interprètes du vae mundo favorables à Aragon, le plus remarquable fut peut-être Francesc Ximenes, un franciscain influent lié à la cour royale. Dans son premier livre du Christia, rédigé plus de 80 années après la prédiction d'Arnaud de Villeneuve, il indique explicitement que les chauves-souris signifient les rois d'Aragon. Un peu plus tard, dans le chapitre portant le titre de la dignité du roi d'Aragon, il exprime sa conviction du fait que la destinée prophétique apocalyptique de la maison d'Aragon soit la unité religieuse et la monarchie universelle. Il aussi propose une interprétation particulière de l'héraldique royale en disant que ces longues varces de l'écu représentent les bâtons, les coupes, les persécutions que les rois d'Aragon asséneront pour combattre et venir à bout de la vanité des mauvais ecclésiastiques. En outre, il insiste sur le rôle des exterminateurs des Sarrasins, non seulement en Espagne, mais partout en Afrique. Bref, pour son auteur, mais aussi pour bon nombre de ses exégètes, la prophétie du Vaemundum in Sentu Manis fut une affirmation de la mission sacrée de la monarchie aragonaise, une preuve indubitable du fait qu'il s'agissait d'une ligne élue et protégée par les divins pour qu'elle jouait un rôle principal lors de la fin du temps. Il est clair que nous nous trouvons face à un témoignage messianique officiel au service des intérêts de la couronne d'Aragon, un exemple paradigmique de jusqu'à quel point les visionnaires du vaste Moyen-Âge, au-delà de leur respect purement prophétique, agirent comme des propagandistes politiques au service des rois qui les protégeaient. De mon point de vue, le fait que la rédaction et le succès historique de la prophétie Vaemundo soient parallèles à la matérialisation de toute une série de moyens d'expression, Olix, qui furent créés dans les cours d'Aragon à partir de la moitié du XIIIe siècle, est totalement parlant. Je me réfère aux manifestations du caractère historiographique, comme par exemple les chroniques du roi ou de l'histoire de leur lignée, de type homilétique, tels que les sermons prononcés par les rois au cours de la cérémonie inaugurale du cours, ou de nature visuelle, comme dans le cas de l'iconographie olique, développée dans toutes sortes de programmes figuratifs et symboliques. L'objectif principal des chroniques du roi rédigées entre la fin du XIIIe et de la moitié du XIVe siècle fut l'exaltation publique des souverains et de leur lignée. Contrairement à ce qui était arrivé jusqu'alors, à partir de la fin du XIIIe siècle, les rois sentirent le besoin de rendre public, de montrer, de déclamer la légitimité et dignité de son pouvoir, son ancienneté et les gestes de ses prédécesseurs. Loin de concevoir des textes pour être enfermés dans les monastères, il fallait des histoires qui pouvaient être lues dans les palais. L'historiographie olique passe d'être un monument privé, est en fait symbolique, à devenir un document public et effectif. Comme il est logique d'imaginer, les histoires qu'ils voulurent rendre publiques étant loin d'être conventionnelles. Les chroniques tournent autour de la narration des gestes du roi et de sa lignée. La plupart d'entre elles sont totalement légendaires et furent créées pour donner un sens clairement providentialiste à la monarchie aragonaise, pour transmettre l'idée que les rois, et de leur naissance à leur mort, avaient été bénis et protégés par les divins. L'utilisation récurrente des métaphores vétérotestamentaires, des visions prophétiques et d'un langage inspiré par les livres bibliques servit à présenter les rois d'Aragon comme les chefs du fil d'un nouveau peuple élu et Dieu comme l'inspiration directe de toutes leurs actions. En fait, leurs gestes sont souvent comparés aux actions de David, de Moïse, de Josué ou même du propre Jésus. Le ton qui domine est donc un sentiment de prédestination et d'élection divine, un fond qui est clairement lié à la recherche d'arguments qui permettent de justifier la politique impérialiste que Aragon mit en place tout au long du vaste Moyen-Âge. Il y a beaucoup de coïncidences entre le ton et le sens des chroniques et ceux des sermons de cours, des pièces homélitiques que les rois prononcent au début de ces importantes réunions. Il s'agissait d'un moment solennel, souvent célébré à l'intérieur d'une église. Les rois parlaient du haut d'une chaire ou de l'autel, comme s'il s'agissait d'un prêtre. Une scénographie si grandiloquente et soignée, semblable à celle qui était utilisée lors des grandes fêtes liturgiques. Les sermons prononcés sont une exaltation constante du royaume et de la dynastie. Dans plusieurs d'entre eux, Pierre IV énuméra les noms et les gestes de tous les rois d'Aragon et de tous les comtes de Barcelone afin de certifier non seulement sa gloire, mais aussi la succession ininterrompue de la ligne depuis la fondation du royaume. Tout cela vise à souligner le caractère sacré de la monarchie d'Aragon. En effet, tout comme dans le cas de les chroniques, les sermons insistent de manière récurrente sur l'idée que les rois étaient des instruments de l'intervention de Dieu destinés à gouverner un peuple élu. Une vision providentialiste et messianique de l'histoire qui provient, pardon, je pose une image de cette course, de ce moment du sermon de cours. Une vision provincialiste et messianique de l'histoire qui provient des modèles de l'Ancien Testament, comme le prouvent les diverses citations des passages de la Bible mettant en scène David, Salomon, Ézéchiel ou d'autres figures bétérotestamentaires. L'image qui en résulte est évidente. Le roi d'Aragon était le représentant de Dieu sur la terre et le guide spirituel de son peuple. Ce climat d'exaltation sacrale de la royauté est aussi une traduction visuelle à travers de bon nombre d'images. Parmi celles-ci, nous trouvons l'illustration initiale del Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca, une image majestueuse du couronnement céleste de Jacques Ier, qui entouré d'autorités ecclésiastiques et civiles de l'île, est aussi représenté en train de jurer sur les documents légaux transcrits dans les manuscrits. En sa seconde illustration, on représente le même souverain incarnant le roi David Joan de l'Arpe et elle se trouve au début de l'Aurum Opus d'Alzira, un livre qui contenait les lois et privilèges du royaume de Valence. Soit grâce à son solennel couronnement céleste devant les principales autorités du royaume, ou grâce à l'émulation du monarque biblique, exemple d'un roi parmi les rois, les deux images sont le résultat d'une volonté explicite de créer une iconographie majestueuse du roi. Parfois même, ceci peut être constaté de manière absolument allégorique, comme par exemple sur l'image qui illustre le frontispice de la chronique des reis d'Aragon et comtes de Barcelone. Des anges dans les médaillons à la part supérieure, des saints et des prophètes avec les phylactères à les côtés, Dieu préside l'initial. Et finalement, Saint Georges, un saint de dévotion royale, vainque le dragon devant la princesse ou vase de page. Il est clair qu'au-delà de la référence à l'Aldix, il n'y a aucune allusion explicite à aucun roi. Toutefois, étant donné le caractère du codex, conçu pour fixer la mémoire des gestes de la monarchie d'Aragon, tout indique que la composition doit être interprétée comme une exaltation sacrée des représentants de cette lignée. Nous pourrons évoquer beaucoup d'autres exemples, le fait, le culte de l'histoire dynastique et le moteur qui encouragea Pierre le cérémonieux à promouvoir des œuvres grandiloquentes telles que la galerie royale de son palais de Barcelone ou le panthéon du monastère du Poblet, des témoignages de la mémoire de la lignée, mais aussi de sa légitimation et de sa sacralisation. En tenant en compte ces manifestations oliques, la gestation et le succès de la prophétie eschatologique du Vespertilio acquièrent une perspective plus large et complète. Le message providentialiste et messianique de la prophétie est absolument coïncident et complémentaire au ton d'autres formules de propagande issue de la cour d'Aragon, de la cour d'Aragon de Gagen. Jusqu'à ce point, il ne pouvait en être autrement. L'auteur et les interprètes du Vae Mundo favorables à Aragon, c'est-à-dire d'Arnaud de Villeneuve à Francesc Ximénez, furent des personnages qui fréquentèrent les milieux de la cour et qui contribuèrent à sa projection rhétorique. Il n'est donc pas étonnant que leurs visions proposent une sorte d'eschatologie courtisane. Même si ce ne fut pas de manière consciente et programmée, il faut avouer que la prophétie d'Arnaud fut la clé de voûte du schéma complexe conçu pour les manifestations zoliques. Une mission universelle des signes eschatologiques s'unissait à présent à l'exaltation d'une monarchie sacralisée au moyen du chant des gestes des membres de la lignée. Un deuxième aspect intéressant d'analyser, la traduction visuelle de la prophétie d'Arnaud de Villeneuve à travers l'utilisation de l'image du Vespertilio. Cela a lieu pour première fois en 1353, lorsque Pierre IV ordonna que les cimières de la vivre au dragon allé, une version particulière de la chauve-souris d'Arnaud, fut ajoutée aux armoiries royales. Pierre IV fut probablement le roi de la dynastie qui prouva un plus grand intérêt, voire même une obsession, pour évoquer publiquement la sacralisation de la monarchie. Compilateur et imitateur des coutumes établies par ses prédécesseurs sur le trône, il fut le factotum de la campagne de propagande de sa lignée la plus vaste et ambitieuse jamais réalisée sous la couronne d'Aragon, en témoignant la rédaction d'une série fascinante de chroniques et de sermons de cours, la promotion d'un bon nombre de projets architecturaux et artistiques, ou encore la codification d'importantes cérémonies auliques telles que le couronnement, les obsèques ou la liturgie même du palais. C'est dans cette campagne d'apothéose de l'image du roi que nous devons inscrire sa décision de faire du Vespertilio un emblème dynastique. À partir de 1353, le Vespertilio fut représenté sous tout type de supports, devenant ainsi un des emblèmes préférés du roi d'Aragon. Une bonne preuve en sont les nombreux témoignages documentaires ou matériels qui sont parvenus jusqu'à nos jours et qui documentent la présence sur les blasons royaux placés sur les bâtiments religieux ou civils liés au roi, la présence aussi lors des cérémonies auliques spectaculaires, comme par exemple les entrées royales ou les couronnements, et encore sa présence dans certains manuscrits de la bibliothèque royale ou contenant des privilèges auliques. Et naturellement, sous des armoriaux les plus célèbres de la fin du Moyen-Âge, tels que l'armorial de Gelre ou le grand armorial équestre de l'Étoison d'Or. Il faut également introduire sur des objets plus personnels, comme par exemple les grands sceaux royaux ou sur les hommes que le roi arboré lors de grandes festivités. Il est évident, dans ces derniers cas, l'identification du monarque avec le Vespertilio doit être spécialement explicite et frappante. Une impression que les cimiers conservés dans l'armure royale de Madrid dû également causer. Il s'agit d'une pièce de parchemin, plâtre et peau dorée réalisée au temps de Martin Luman, probablement aux alentours de 1407. Cette année fut celle de la concession de la permission d'ajouter les cimiers du dragon allié aux insignes royales exhibés pendant la fête de la conquête. Cette célébration, qui avait lieu encore aujourd'hui, chaque 31 décembre, commémorait la défaite des infidèles musulmans à l'entrée du roi à Majorque grâce à l'aide divine. Exhiber une absentia du monarque, l'homme dû acquérir une puissante dimension symbolique, c'est que ce soit en tant qu'évocation du pouvoir surnaturel de Jacques Ier, héros de la conquête, ou en tant qu'annonce du destin privilégié que Dieu réservait aux membres de sa lignée. Quoi qu'il en soit, il semblerait que c'est sous Alphonse Ier, l'association de la représentation du Vespertilio à la figure du roi a tenu son moment le plus intense. Alphonse fut explicitement associé au Vespertilio dans diverses prophéties et incorpora l'emblème à toute une série d'objets reliés à sa personne. Dans ce cas, l'identification avec la créature citée dans la prophétie d'Arnaud de Villeneuve avait été citée par divers visionnaires, en premier lieu par sa condition d'un membre de la famille Trasamara. Rappelons que dans son exercice particulier du Vae Mundo, le prophète Pierre d'Aragon identifia les chauves-souris citées par Arnaud à Henri II de Castille. Il attribuait au roi castillan la mission d'exterminer la secte maudite des infidèles, ou ce qui revient aux mêmes les musulmans. De son côté, une prophétie eschatologique du thème d'Alphonse Ier est contenue dans les manuscrits de Carpentras. Dans cette dernière, le schisme de l'Église et l'élection de Félix Ier comme antipape sont lus comme d'évidents signes de la proximité de la fin du temps et du déchaînement des forces du mal. Ce sera alors, disons, qu'Alphonse le Magnanime, qualifié de 11e Vespertilio, soumettra d'abord l'Égypte, puis l'Italie, où il châtiera les ecclésiastiques corrompus. Avec tous ces précédents, ça c'est l'image d'Henri II de Castille et de l'utilisation de le Vespertilio. Avec tous ces précédents, il n'est pas étonnant qu'Alphonse a porté lors pour plusieurs occasions le Vespertilio comme cimière de son nom au cours des tournois célébrés d'abord à Valence et plus tard à Naples. Il n'est pas étonnant non plus qu'il a ordonné sa représentation sur une toute série d'objets qui lui étaient spécialement proches, des livres de la sa bibliothèque ou du relief sous plusieurs constructions. Sa présence dans une collection de sceaux, la plupart d'être conçus avant de la conquête de Naples, ou sur une pièce de monnaie frappée en 1426 à Valence. C'est quelques exemples de cette utilisation. À cause de la confusion ou de la proximité entre les deux bêtes alliées, la vivre au dragon allée, la vivre de Conalé est représentée sous la forme d'une chauve-souris, Vespertilio, sous la plupart d'images réalisées sur Alphonse. Une preuve de la possible utilisation d'une des bêtes peut-être se trouve dans une nouvelle de 1436 qui indique qu'il faudra représenter la vivre ou les dracs ou les dragons allés ou les chauves-souris pour accomplir les ordres du roi. Quelques années plus tard, Pisanello nous laissera des magnifiques témoignages figuratifs qui prouvent comment, au fil du temps, la vivre fut à tel point associée à la chatte-souris qu'elle perdit même sa forme originale en faveur de cette dernière. Je fais référence, bien entendu, à ces esquisses fascinantes d'hommes et d'armures portant les emblèmes royaux, des illustrations qui nous offrent une piste pour essayer de reconstruire la vraiment fascinante image d'une Alphonse qui participa au tournoi napolitain, vêtu de l'éblouissante armure des Misaillas, couronnée par les chauves-souris. Loin d'être une représentation simplement passive, nous nous trouvons face à un objet parlant, porté par le roi lui-même et qu'il identifiait avec le Vespertilio. Il y a peu de doute concernant le fait qu'Alphonse doit utiliser l'emblème de Vespertilio pour faire allusion à la politique, ou plutôt au rêve impérialiste, que fut sa tentative de s'en mettre à la tête d'une croisade contre les infidèles établis à l'est de la Méditerranée. Lors des décennies précédentes, la chute de Constantinople aux mains des Turcs, déjà, et dans le contexte de la recherche d'une saveur universelle du monde chrétien, plusieurs traditions prophétiques identifieront le premier roi Trastamare de la couronne d'Aragon, au Vespertilio. Plus concrètement, Alphonse fut présenté comme le Vespertilio de Structure Sarracenorum, un titre sur lequel son père avait déjà été désigné et dont le premier sens est lié à la défaite des musulmans sur la péninsule ibérique. Outre toute limite géographique, Denis Guinot, dans son poème prophétique Obra figurativa, signala qu'Alphonse est l'élu pour combattre les Turcs et devenir, par volonté divine, l'empereur universel, perquè Déu volia que fos de l'univers monarca. Un ton e un sens semblables se degagen, e nous l'avons déjà vu, de profecies inclús dans le manuscrit conservé à Carpentras. C'est dans ce texte cité dessus, Alphonse et son fils sont présentés comme les contre-figures de l'antichrist mystique et le personnage apocalyptique Alphonse est interprété comme le personnage que le roi qui doit expulser les hérétiques de l'Église et éliminer les ennemis de la foi chrétienne. Les chauves-souris et les images symboliques citées de manière récurrente pour souligner les pouvoirs surnaturels et politiques qui rendent possible tel geste. Alphonse tout particulièrement, est évoqué en plusieurs reprises sous l'image de Vespertilio, qui déploie ses immenses allées sous ses demoins, arrivant jusqu'à le lointain Orient. Dans un poème datant de 1454, signé par Denis Guinaud, dans ce poème se décrit la figure du roi et on dit qu'Alphonse porte un homme et c'est une créature moitié vipère allée, moitié chauve-souris. La chauve-souris, alors, manifeste cet esprit de la croisade, le désir de construire une image attractive et rhétorique du roi aragonais, capable de rivaliser avec celle qui fut conçue par le terrible et puissant Grand Turc, durant encourager une identification encore plus étroite, si cela est possible, entre Alphonse Ve et la créature de son emblème personnel. Une circonstance qui peut être clairement observée dans l'oracle valencien de moitié XVe siècle, qui dit « Surgit, Vespertilio, surgit », un appel emphatique au roi aragonais afin qu'il entreprenne la lutte contre les Ottomans. Après le règne d'Alphonse, la représentation du Vespertilio ayant l'apparence d'une chauve-souris fut aussi populaire que l'option de la vivre au dragon allé. Une bonne preuve sont les illustrations du Aurum Opus imprimées par Diego de Gumiel en 1515, une collection de privilèges royaux accordés au royaume de Valence. Le livre ouvre avec le grand blason d'Aragon couronné par les chauves-souris, tandis que un peu après, Jacques Ier est représenté avec un homme confieux de la vivre au dragon allé. Un autre exemple de l'interchangeabilité entre les deux créatures, cet témoignage iconographique nous sert aussi à observer comment cet emblème du Vespertilio fut utilisé de manière totalement anachronique pour distinguer Jacques Ier, qui vécut à près d'un siècle avant de son institutionnalisation héraldique. Certes, en plus d'être le fondateur du royaume de Valence, il s'agissait d'un roi célèbre pour ses victoires contre les musulmans. De même, il est intéressant de souligner la connexion entre l'illustration initiale et le choix pour le cours du royaume de Valence de les chauves-souris comme emblème de leur propre blason. Comme d'autres cas, nous nous trouvons face à l'adoption de modèles de l'iconographie royale pour configurer l'emblème d'une institution saillante de la couronne d'Aragon. En conclusion, la prophétie eschatologique du Vespertilio est un exemple évident du messianisme politique. Au début du XIVe siècle, Arnaud de Villeneuve, un prophète proche de la cour, élabora un argument puissant qui aida à promouvoir le prestige de la monarchie de la maison d'Aragon. La contribution des diverses sagesses du XIVe et du XVe siècle fut fondamentale. Avec leurs interprétations particulières de la prédiction, ils contribuèrent de manière décisive à maintenir en vie les souvenirs de la prédiction et à renforcer les liens avec la monarchie aragonaise. En plus de tout cela, ce que j'ai voulu prouver ici est que jusqu'à quel point la nature de la prophétie Vae Mundo correspond au sens providentialiste et messianique d'autres moyens de propagande promis par la cour aragonaise tout au long du vaste Moyen-Âge. Dans ce sens, nous croyons que l'apparition de la prophétie eschatologique et surtout son succès historique s'expliquent fondamentalement par la volonté, non pas programmatique, mais bien consciente, d'encourager un vaste programme multimédia d'exaltation et de sacralisation de la monarchie d'Aragon. Un programme que, soulignons-le, ne fut pas conçu de manière calculée, mais qui cristallisa au fil du temps grâce à la production de toute une vaste série de matériels historiographiques, homilétiques, visuels, de liturgie courtisane et, bien entendu, eschatologique. Dès le moment où toutes ces manifestations, au moins certaines entre elles, pourraient être représentées, contemplées, lues, écoutées contemporanément dans le contexte de la cour, tel qu'une vraie kaléidoscopique de rhétorique oblique, Il est clair qu'elles pourront se renforcer alternativement, accordant une plus grande intensité au sein de chacune d'entre elles. Tel dû être le cas de la prophétie d'Arnaud, et encore plus au moment, à partir du moment où Pierre d'Aragon, Pierre le Cérémonieux, décida d'ajouter l'emblème du Vespertilio au cimier des armes royales. Ce fut alors qu'une formule qui renforçait encore plus l'association de la créature eschatologique au monarque aragonais fut naturalisée. Une identification qui atteignit son point culminant sous Alphonse Ve. La croisade contre les infidèles, proclamée emphatiquement par ses rois et ses acolytes, remplit de sens plus que jamais l'idée selon laquelle le monarque aragonais devait être le roi universel, empereur de la fin du temps. Merci beaucoup.